Cieco d'ailleurs est en vacances. Pendant ce temps, nous vous proposons une série de rediffusions. Nous avons choisi de vous faire entendre certaines des émissions les plus marquantes de la saison qui s'est terminée au mois de juin. Restez à l'écoute.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons Marc Renard, le directeur exécutif international d'Orange. Bonjour Marc Renard.
Bonjour.
D'abord deux mots Marc Renard sur votre parcours pour commencer cette émission. Vous avez 58 ans, vous êtes né en Savoie dans les Alpes françaises. On vous trouve d'ailleurs à la fin des années 80 à la direction générale de la Société des Montagnes de l'Arc. Pourquoi faire ?
Eh bien, pour diriger ce qu'on appelle un réseau de ski, c'est une station intégrée qui gérait un domaine skiable, des hôtels, des logements, un club des sports, une radio aussi, et beaucoup de choses.
Puis très vite, vous bifurquez après avoir travaillé à TDF, Télédiffusion de France. Vous intégrez le groupe France Télécom Orange en 2004 pour vous occuper des opérations internationales, ce que vous faites donc toujours aujourd'hui, essentiellement en Afrique et au Proche-Orient. J'ajoute que vous présidez par ailleurs le conseil des chefs d'entreprise France, Afrique de l'Ouest et Centrale du MEDEF, le patronat français. On en reparlera tout à l'heure. Marc Renard, vous êtes issu de l'École supérieure de commerce de Lyon, une école réputée, mais vous n'êtes ni polytechnicien ni centralien. En un mot, vous n'êtes pas ingénieur. Alors, est-ce que c'est pas un peu compliqué de tracer son chemin dans une entreprise comme Orange, qui est par définition un repère d'ingénieurs, de polytechniciens, de centraliens et de centraliennes ?
Alors, chaque jour un peu moins, parce que si vous regardez les organes de direction de ce beau groupe, il y a de plus en plus d'hétérogénéité dans les formations des dirigeants, qu'on a commencé par celle de notre PDG, Stéphane Richard.
Qui est énarque,
HEC également, et inspecteur des finances, je crois, et puis beaucoup de ses collaborateurs. Donc moi, j'ai passé l'essentiel de mon existence professionnelle jusqu'à maintenant à sauter sur des domaines nouveaux. Je n'étais pas un familier des sports d'hiver quand j'ai démarré. Je n'étais pas un familier de la télédiffusion lorsque j'étais à TDF. Je n'étais pas un familier du téléphone mobile lorsque j'étais à Orange. Mais tout ça, c'est beaucoup de management, de bon sens et d'investissement personnel pour apprendre les codes et apprendre le rudiment de technique qui permet de diriger les opérations.
Alors votre collègue d'Orange, Delphine Ernotte, directrice exécutive d'Orange France, vient d'être nommée à la présidence de France Télévisions. On en parle beaucoup dans les médias français. Le nom de son remplaçant ou de sa remplaçante n'est pas encore connu. Est-ce que c'est un travail, un poste sur lequel vous aimeriez sauter ?
Vous savez, quand vous êtes dans une équipe de direction, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être nommé par Stéphane Richard il y a 5 ans, en 2010, lorsqu'il est arrivé. J'ai l'habitude de dire, je ne suis candidat à rien et disponible pour tout. Donc je suis très bien dans ma fonction, je fais un métier passionnant, on aura l'occasion d'en dire un mot plus tard. Donc je suis à la disposition de Stéphane Richard pour tout, mais naturellement, candidat à rien, ce serait totalement indécent de dire autre chose à ce stade.
Dans un autre ordre d'idée, est-ce que comme Delphine Ernotte, vous avez des fourmis dans les jambes ? Est-ce que vous vous verriez, par exemple, à la tête d'une structure audiovisuelle publique qui diffuserait, par exemple, vers l'Afrique ?
Bah écoutez, il y en a pas beaucoup d'ailleurs qui diffusent vers l'Afrique. Il y a plutôt des stations privées qui diffusent vers l'Afrique. Il y a des stations publiques qui diffusent vers l'outre-mer, vers les départements et territoires d'outre-mer, très proches de vous. Donc je n'en connais pas. Donc la question s'est pas posée. Moi, je suis salarié, dirigeant d'une belle partie d'un grand groupe. Il y a 10 ans, je n'étais pas là. Dans 10 ans, je serai peut-être ailleurs ou peut-être avant. Ça dépend un peu de moi, mais également de mon PDG qui a un droit. Par définition, de choisir ses collaborateurs et notamment son équipe rapprochée, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en m'accordant sa confiance. Il a le droit de changer d'avis quand il le souhaite ou si les résultats n'étaient pas là, ce qui n'est fort heureusement pas le cas aujourd'hui.
Alors Marc Renard, au cours de cette émission, nous n'allons pas parler que de vous, nous allons évoquer le développement de l'économie africaine, des économies africaines, le rôle des télécommunications dans cet essor des économies africaines et bien sûr le rôle d'Orange. Avec une première question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Alors, Marc Renard, je rappelle que vous dirigez les activités internationales d'Orange et notamment l'Afrique. Hein, et cette Afrique que vous sillonnez régulièrement, comment va-t-elle ? Comment vont ces économies alors que finalement ces derniers mois, il y a beaucoup d'éléments négatifs qui semblent se dévoiler ?
Disons qu'on est plutôt dans un cycle dans un cycle positif où je crois que les indicateurs, en tous les cas les indicateurs macroéconomiques tels que publient le FMI ou la Banque mondiale sont positifs. On parle d'une croissance dont on ne sait pas exactement si elle sera en moyenne. Les moyennes ne veulent pas dire grand-chose, 54 pays, vous le savez bien, mais les moyennes entre 4 et 8, 9, 10% selon les pays. Nous étions il y a quelque temps, la semaine dernière j'étais en Égypte, la semaine d'avant j'étais avec une délégation du MEDEF international en Côte d'Ivoire. Dans les deux villes, on a retrouvé des embouteillages, ce qui peut être critiquable. C'est d'une banalité absolue, mais c'est quand même un signe important. Moi, je me souviens d'une Côte d'Ivoire, d'un Abidjan vide en 2011, à la même époque du Caire où on pouvait rouler de façon très facile. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout va mieux partout, mais moi, j'ai le sentiment qu'on est quand même dans une période plutôt positive. Il y a beaucoup de crises politiques qui se sont réglées. Il y a un peu plus de stabilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crises ici ou là, mais des crises, il y en a aussi en France, il y en a aussi aux États-Unis, qu'on fait ce qui se passe à Baltimore en ce moment.
Les embouteillages en Afrique, c'est un baromètre de l'activité économique ?
Oui, je pense que c'est un baromètre. Alors, on peut tout dire à cet effet. Si vous avez durablement une activité qui est paralysée parce que les gens ne peuvent pas se déplacer, ça ne favorisera pas l'économie. Mais lorsque vous avez des villes qui sont vides et qui d'un seul coup retrouvent une activité, on voit des taxis neufs, on voit des voitures qui sont moins abîmées, on voit des camions de marques récentes, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont investi, qui font confiance dans le développement de l'économie. Donc oui, à un instant donné, des embouteillages, ça peut être positif. Encore une fois, l'idéal serait qu'il y ait le même nombre de véhicules sur des routes plus dégagées, mais ça suppose des infrastructures et c'est un autre sujet qu'on évoquera peut-être.
Pourtant, Marc Renard, le cours des matières premières est en baisse, en forte baisse. Est-ce que ça vous inquiète pas trop, apparemment, pour la croissance?
Alors, dans mon secteur, d'une façon générale, ça peut être tout ce qui est difficile, c'est tout ce qui ressemble à des chocs violents, des mouvements violents à la hausse ou à la baisse, s'agissant des matières premières, s'agissant des valeurs des monnaies également, qui sont parfois liées d'ailleurs à l'évolution des cours des matières premières. Donc les variations brutales sont jamais faciles à digérer. Néanmoins, je me suis laissé dire que les cours de certaines matières du type le cacao avaient été quand même pendant longtemps assez élevés au cours de ces dernières années. Ça touche pas tous les pays, bien sûr, mais quelques-uns, notamment en Afrique de l'Ouest. Vous avez au cours des matières premières s'ajoutent les variations du dollar qui s'est quand même apprécié au cours de ces dernières années. Dans mon activité, étant présent beaucoup en zone francophone, on n'a pas d'impact majeur. Néanmoins, lorsqu'on travaille... Par contre, lorsqu'on travaille, comme je travaille en Égypte, c'est un petit coup de pouce comparé à ce qu'on avait précédemment où la monnaie s'était
affaiblie. Est-ce que vous voyez un ralentissement de la croissance des chiffres d'affaires de vos filiales?
Non, pas aujourd'hui. On a fait notre meilleure année depuis très longtemps en 2014. Le début d'année est bien orienté et on vient de publier nos résultats du premier trimestre. On est encore sur une croissance à près de 7%, 6,8%. On n'a pas de vision aujourd'hui d'un ralentissement quelconque, mais nous sommes un bon marqueur de l'économie. Les télécoms, c'est un bon marqueur de l'économie. Par contre, pas forcément de tel ou tel aspect de l'économie, ici ou là, dans tel ou tel pays.
Si les économies africaines vont si bien, comme vous le dites, pourquoi est-ce qu'on constate cette ruée vers la Méditerranée, ces migrants qui s'entassent dans des barcasses où ils périssent? Pourquoi?
Écoutez, les économies, premièrement, je ne vous ai pas dit que les économies, tout était parfait, que les économies allaient bien, mais il me semble qu'on est quand même dans une dynamique de croissance un peu partout en Afrique, pas partout, il y a 54 pays, on ne le redira jamais assez, quel rapport entre la Tunisie et le Sénégal, entre le Niger et Maurice, bon, tout ça c'est très différent. Donc les économies sont en croissance, néanmoins, on peut avoir une croissance économique, comme on l'a dans certains pays, sans avoir, comme on le dit dans les milieux spécialisés, une croissance inclusive qui touche les populations. Donc il y a des populations qui souffrent,
qui créent de l'emploi, en fait.
Qui créent de l'emploi et qui servent l'ensemble des populations. Donc il y a de la pauvreté, il y a de la misère, et qui dit misère, il y a des espoirs qui sont créés, des attentes, et puis beaucoup de gens qui profitent de cette misère et qui créent les situations dramatiques qu'on connaît en ce moment, contre lesquelles il faut lutter, mais il faut lutter à la fois en urgence, que la communauté de l'Union Européenne essaye de faire, et puis peut-être sur le fond, pour éviter que ces migrants, qui seront de plus en plus nombreux parce que la population augmente, se précipitent dans les conditions qu'on a vues tous sur les écrans, qui sont absolument dramatiques.
Frédéric Maury.
Votre autre casquette, c'est donc celle de président du Conseil des chefs d'entreprise France-Afrique de l'Ouest et centrale du MEDEF. Et à ce titre-là, vous avez un poste d'observation idéal pour jauger un petit peu ces relations entre la France et l'Afrique. On voit bien depuis un an ou deux ans, il y a eu deux sommets, une volonté des Français de revenir, en tout cas de repasser à l'offensive sur un continent que les Français connaissent bien. Est-ce que vous, qui êtes là depuis longtemps, Orange est un groupe qui opère en Afrique depuis un moment, est-ce que vous le voyez sur le terrain, ce regain d'intérêt des entreprises françaises?
Alors moi, ce qui me frappe surtout, c'est que malgré les difficultés, malgré la crise, les entreprises françaises ne se sont pas dégagées. Lorsque vous parlez de mes responsabilités au MEDEF international, elles portent sur une partie de l'Afrique, une partie importante, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, ce sont quand même une vingtaine de pays, donc pas les 54, mais les entreprises françaises ne sont jamais parties. C'est d'ailleurs une des caractéristiques. Il faut savoir reconnaître, dans les temps difficiles, lorsque les États, nos partenaires africains, ont besoin de leurs partenaires, la France est restée, la France n'est jamais partie. Les entreprises françaises ont parfois réduit la voilure, comme on l'a fait en Tunisie, comme on l'a fait en Égypte, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, comme on l'a fait au Centrafrique, mais personne n'a quitté. Orange n'a jamais cessé d'émettre en Centrafrique, alors que plusieurs de ses concurrents l'ont fait. Donc, on a une action qui a été plus visible. On a profité aussi d'un momentum favorable lié aux différentes interventions politiques de notre pays, dont on essaye de tirer un avantage. En renforçant notre présence, on fait ces voyages qui sont toujours très appréciés avec le MEDEF dans les pays, qui sont des occasions de rencontres avec nos pairs des entreprises des pays qui nous accueillent. Je crois que ça aide. Je crois qu'on est dans un momentum positif, mais je crois qu'il serait erroné de dire que la France avait délaissé l'Afrique et qu'elle y revient maintenant.
Mais est-ce que vous voyez des nouveaux, parce que finalement les groupes dont vous parlez, ceux qui sont restés, Orange, Castel, CFAO, Bolloré, etc., c'est les groupes qui sont depuis longtemps en Afrique. La question surtout qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux investisseurs français en Afrique ou est-ce que on ne voit pas encore tout à fait?
Alors, ce qui m'a frappé, moi, lors du dernier voyage le plus récent que nous avons fait il y a une quinzaine de jours en Côte d'Ivoire, qui était une grosse délégation Côte d'Ivoire et au Ghana, qui était une délégation importante, 47 chefs d'entreprise. Ce qui m'a frappé, c'est que pour la première fois, il y avait non seulement les historiques, tels que vous venez de les citer, les Bolloré, les Vinci, la BNP, la Société Générale, Orange, Total, j'en passe et d'autres, CFAO, mais il y avait, pour la première fois, un nombre important de PME. Et vous savez, pour une PME française, participer à un voyage, c'est un investissement important. C'est coûteux. Faut quand même payer son hôtel, son billet d'avion. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, de préparation. Donc le fait que, en liaison avec des grands groupes, des PME s'intéressent à ces pays-là, c'est un bon signal pour la France, parce que c'est un signal que les entreprises françaises retrouvent un peu de l'envie d'entreprendre. C'est également un bon signal pour l'Afrique, en l'occurrence le Ghana et la Côte d'Ivoire ici, qui donnent davantage confiance par des réformes qui sont produites et qui donnent envie à des gens d'investir sur ces pays.
Mais est-ce que les entreprises comme la vôtre, Orange, comme les grands noms que vous avez cités, Bouygues, Bolloré, etc., font la courte échelle à ces PME ou est-ce que c'est encore du chacun pour soi, comme on l'a souvent dit?
Bon, vous avez peut-être trouvé que je suis trop optimiste. Moi, j'ai le sentiment que les choses bougent, que beaucoup de rapports ont été publiés. Traditionnellement, il était de bon ton de dire qu'en France, on ne chassait pas en meute, chacun y allait pour soi. Je crois que ce que fait le CIAN, le Conseil des investisseurs en Afrique, ou ce que fait le MEDEF international, correspond à une prise de conscience qu'il faut s'aider, qu'il faut travailler ensemble pour gagner des marchés. C'est d'ailleurs un peu moins vrai pour mon industrie dans les télécoms, parce que nous, une fois que nous sommes dans un pays, une fois que nous avons acheté une licence, que nous avons construit un réseau, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes physiquement. Quand vous vendez de la bière ou des chaussettes, vous pouvez arrêter 6 mois, essayer de revenir. Mon réseau, moi, il est physiquement installé, je n'ai pas d'autre choix. Donc oui, on aide des entreprises européennes et françaises à s'implanter, à travailler, parce que ça fait aussi partie de notre responsabilité sociale d'entreprise.
Alors vous êtes très bien placé pour prendre le pouls des relations franco-africaines, on vient d'en parler un peu. L'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné évoquait la semaine dernière un rapport parlementaire qui a été enterré par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, parce qu'il donnait une image assez dégradée de la France en Afrique, de la perception de la France en Afrique. Est-ce que vous confirmez que la France, au contraire de ce que beaucoup de Français croient, n'a pas bonne presse en Afrique?
Je ne le pense pas. En tous les cas, encore une fois, très difficile de parler de l'Afrique...
Des Afriques francophones,
en Afrique francophone, je ne le pense pas. Je crois qu'il est quand même reconnu que ne serait-ce que le rôle politique qu'a joué dans les différentes crises, la crise ivoirienne, la crise au Mali, la crise en Centrafrique, même si des événements tout récents ces derniers jours pourraient entacher un tout petit peu l'image de notre pays et nos forces armées, je crois que le rôle qu'a joué le politique et la France dans un certain nombre de crises a créé un momentum positif, un moment où les Africains seuls n'étaient pas peut-être encore en mesure de prendre la totalité de leur destin en main. Je crois que ce coup de main qui a été donné dans la stabilisation, dans l'accompagnement, et pas simplement au plan militaire, je crois qu'il était apprécié. Moi, j'ai le sentiment...
Mais vous ne pensez pas, au contraire, que on donne, enfin, la France donne l'image d'un pays qui guerroie en Afrique plus qu'elle n'y fait des affaires?
Peut-être, si vous le dites, vous avez la liberté de le commenter ainsi, de le présenter ainsi. Bien évidemment, lorsqu'on envoie des militaires, on guerroie. Ça, c'est factuel. Mais je crois que chaque fois que ça a été fait ces dernières années, c'était fait dans des conditions telles que ça répondait à des nécessités, à une urgence, à l'appel des gouvernements, à l'appel des unions régionales, la CDAO, l'UMOA et d'autres. Je crois que ça a été plutôt bien fait, et je ne pense pas qu'on soit dans une phase où on ait des critiques fortes. Pour autant, ça ne nous donne aucun droit spécifique, mais je crois qu'on est plutôt dans un momentum favorable.
Et en tant qu'entreprise française, je ne sais pas si vous êtes perçu comme ça en Afrique d'ailleurs, mais en tant qu'entreprise française, vous ne subissez pas de contre-coups, d'attaques liées à la nationalité d'Orange.
Pas aujourd'hui, on n'a pas vécu ça. Vous savez, quand vous êtes installé dans un pays, si vous êtes prenons le cas du Mali, mais même avant l'intervention française, la crise au Mali elle préexistait à l'intervention française. Donc avant l'intervention française, quand vous êtes au Mali à Bamako, vous avez forcément des gens qui vous critiquent quand vous êtes dans des zones autonomes qui considèrent plus au nord, qui considèrent que leur autonomie est insuffisamment respectée. Donc oui, on a pu ici ou là être pris non pas en otage, mais pris un peu dans ces luttes entre des représentations différentes de telle ou telle partie du pays. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on ne souffre pas, en tous les cas, nous, Orange, on ne souffre pas d'être... on n'est pas victime d'une quelconque intervention française dans ces pays. Pas du tout.
Si on revient au secteur des télécoms, il faut reconnaître que c'est la grande success story finalement des 15 dernières années. En Afrique, c'est souvent l'exemple qu'on donne.
Il y en a d'autres.
C'est vrai, on en parlera, mais c'est souvent l'exemple qu'on donne, celle des télécoms, le boom des télécoms. Il n'y en avait quasiment pas il y a 20 ans de téléphone mobile. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'à votre avis, le secteur des télécoms dans son ensemble a vraiment participé à la croissance africaine, a vraiment contribué à commencer à modifier le paysage économique africain?
Alors oui, complètement, et c'est prouvé. Bien sûr, moi je suis payé pour expliquer que les télécoms sont utiles à la croissance, au développement économique, mais je crois qu'on l'a démontré, que ça fait consensus aujourd'hui. Il y a une stricte corrélation entre développement des télécoms et développement économique des pays. Quelle est la poule, quel est l'œuf? On peut débattre. J'ai tendance à penser que le développement des télécoms aide au développement économique des pays, mais on peut aussi dire c'est parce que les pays se développent que le secteur des télécoms peut se développer. L'émergence des classes moyennes, les high value customers, comme on dit, les gens qui peuvent acheter des produits élaborés. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que cette industrie est créatrice d'emplois. Chaque fois qu'on crée un emploi direct, on crée 19 emplois indirects. Des études indépendantes qu'on a cofinancées par des universités américaines dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, 5 pays d'Afrique de l'Ouest, montrent très clairement qu'on est un acteur important du développement du PIB des pays. Les télécoms, pas nous Orange seulement, mais Orange et ses concurrents, on explique de l'ordre d'un tiers de la croissance du PIB de ces dernières années dans les 5 pays d'Afrique de l'Ouest où a été faite cette étude.
Vous Orange? Donc, oui.
Non, nous les Orange, télécoms. Les télécoms, pas nous.
Et justement, où en est Orange aujourd'hui sur ces marchés africains?
Écoutez, on est présent dans 20 pays, 18 pays plus quelques territoires. On a eu partout des bonnes positions, on a fait une bonne croissance, on vise partout d'être numéro 1 ou numéro 2, on a 20 000 employés, on a franchi la barre des 100 millions de clients. Donc on est un exemple d'une croissance qui est réussie, avec un souci quand même permanent de faire ce qu'on appelle d'avoir une attitude responsable, de responsabilité sociale d'entreprise, par exemple, qui se traduit par le fait qu'on va investir dans le rural.
Eh bien, Marc Renard, c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité pour poursuivre cette conversation avec vous et Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouys.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Nous recevons Marc Renard, le monsieur Afrique du groupe de télécommunications Orange. Marc Renard, nous avons vu dans la première partie de cette émission à quel point l'Afrique était pour Orange un marché important. Ce qui se développe surtout pourtant en Afrique, c'est le low cost, n'est-ce pas? Est-ce que c'est rentable le low cost pour Orange?
Alors, c'est pas seulement le low cost, puisque notre produit, comme d'autres, est un produit universel qui touche à la fois le haut de marché, donc vous et moi, et à la fois ce qu'on appelle en anglais bottom of the pyramid, c'est-à-dire le marché de monsieur tout le monde, des gens qui ont quelques euros par jour, qui ont juste passé le seuil de pauvreté. Donc oui, l'activité est rentable aujourd'hui, rentable néanmoins sur le long terme, car pour opérer dans cette activité, on doit d'abord acquérir des licences qui sont cédées par les États, et ensuite construire des réseaux, investir massivement, et sur le long terme, ces activités sont profitables, car la demande est là, car tout le monde veut téléphoner, et tout le monde téléphone aujourd'hui un peu plus qu'hier, tout le monde envoie un peu plus de photos, de vidéos, consulte Facebook, achète des produits sur Amazon, donc oui, cette activité est rentable, mais sur le long terme, donc on a besoin de stabilité.
Ces licences, elles s'arrachent à prix d'or ?
Alors, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire des télécoms. Les licences ont d'abord été données pour des prix raisonnables. Ensuite, il y a eu une multiplication des nombres des licences qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation absurde où il y a 200 opérateurs télécoms en Afrique. Ce qui est juste absurde, qui ont à peu près, au global, le même nombre d'abonnés que China Mobile en Chine. Donc, c'est quand même des situations qui ont été un peu excessives. Trop de licences ont été accordées. Et puis, on est dans une phase maintenant un nouveau coup de balancier où les États qui ont besoin d'argent ont tendance à renouveler les licences, qu'on est dans des phases de renouvellement, à des prix qui sont, que nous jugeons, nous, parfois un peu excessifs et qui risquent de freiner l'investissement.
Et c'est quoi un prix excessif pour une licence?
Ça peut varier en fonction de la taille du pays, du nombre d'opérateurs, du type de licence, de sa durée. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pas du tout pareil d'acheter une licence en Guinée-Bissau que de l'acheter au Nigeria.
Ça pèse sur vos résultats, ce prix de licence?
Alors, ces licences, ce sont des choses qu'on amortit, donc qui sont dans notre bilan. Donc, si on les prend, c'est quand même quelque part qu'on juge ça intéressant. Mais ce sont des licences que l'intérêt porte sur des durées longues, qui sont au minimum de 10 ans et au maximum de 20 ans. C'est entre 10 et 20 ans selon les cas. C'est la raison pour laquelle il nous faut de la visibilité, de la stabilité, parce que le drame absolu serait de payer une licence et de devoir arrêter l'activité ou de la voir être perturbée par une crise. Au bout de 2 ou 3 ans, quelqu'un perdrait beaucoup d'argent.
Et un achat de licence, c'est Marc Renard tout seul qui décide d'y procéder ou
non,
c'est la direction du groupe Orange?
Bien sûr,
à Paris?
Bien sûr, on a une gouvernance qui est très structurée. Premièrement, si c'est une nouvelle licence dans un pays où nous ne sommes pas, on a des équipes de business développement qui travaillent, qui préparent les dossiers. Ensuite, on a dans notre gouvernance un comité d'investissement qui est présidé par le directeur financier du groupe. Je présente ce dossier en tant que patron futur de l'exploitation. Donc il n'y a pas de dossier qui puisse passer si je ne le présente pas, mais néanmoins, je ne peux pas décider seul de prendre une nouvelle licence. Pour le renouvellement d'une licence, il y a un autre acteur qui est très important, c'est le patron local de la société locale qui nous propose de renouveler cette licence. Il va la négocier avec l'autorité de régulation et on a là aussi un comité d'investissement. Donc j'ai effectivement un rôle important, mais je ne décide pas seul.
Frédéric Maury.
Et Orange actuellement dispose de moyens financiers conséquents pour éventuellement acquérir des nouvelles licences? Ou est-ce que vous regardez plutôt des petites...
En fait, aujourd'hui, sur le continent africain, je vous le disais il y a un instant, il y a 200 opérateurs. Donc nous estimons qu'il n'y a pas la place, à quelques exceptions près, il n'y a pas la place pour de nouveaux opérateurs qui ferait ce qu'on appelle un greenfield, c'est-à-dire qui partirait de rien pour bâtir un réseau. Donc on pense qu'à l'exception de quelques pays, il y aura probablement un jour en Éthiopie une seconde licence, puisqu'il y a un seul opérateur. Il était question il y a quelques temps qu'une troisième licence soit octroyée au Togo, pourquoi pas. Mais dès lors qu'il y a plus de 2 licences, dès lors qu'il y a 3 licences, on estime aujourd'hui dans le monde des télécoms, qui est un monde qui est en train de devenir mature, qu'il n'y a pas la place pour de nouvelles licences. Donc il y aura très peu de nouvelles licences. En revanche, il peut y avoir un peu de consolidation ici ou là, à l'intérieur de certains pays.
À l'intérieur de certains pays, ou même au-delà, est-ce qu'on peut imaginer, on a vu par exemple l'acquisition de Maroc Telecom par Etisalat, mais est-ce qu'on peut imaginer que Orange participe à des grosses opérations de consolidation?
Alors, on est sur le continent, le groupe Stéphane Richard, qui vient de présenter le plan stratégique, a indiqué que nous étions un groupe qui voulait se développer en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, donc ce qui veut dire qu'on est en veille permanente sur toutes les opportunités. Mais on a aussi dit qu'on avait des activités de M&A très raisonnables, parce qu'on a un environnement financier qui nous conduit à être raisonnable, on veut être maître de notre destin financier, et donc on ne surpayera pas des cibles au motif d'acheter de la croissance. Il y a eu finalement assez peu d'opérations de M&A, du type de celles que vous évoquez au cours des dernières années. Il y a eu celle de Maroc Télécom, avec Etisalat, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres depuis. Par contre, il y a ici ou là des opérations qui se rachètent, des opérateurs dans tel ou tel pays qui se rachètent, qui peuvent se céder, qui se consolident, qui se fusionnent, ça peut arriver, et on est en vigilance là-dessus.
Alors Marc Renard, on va parler d'un sujet qui mobilise beaucoup d'attention dans le monde des télécoms et le monde financier africain, c'est le mobile money, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en Afrique, on va bien sûr en parler longuement avec vous, mais d'abord on écoute Fatoumata Keïta, qui est directrice du marketing du développement et de la communication de la BDM, la Banque de développement du Mali, au micro de David Bachet, Fatoumata Keïta, qui nous parle du mobile money au Mali.
C'est un produit qui marche énormément, qui est adapté aux besoins de la clientèle au Mali, et c'est pour cela qu'on voit une explosion de services dans ce sens-là. Vous voyez même les transferts d'argent par téléphone, au-delà de Western Union, au-delà des autres concurrents aussi de Western. Donc aujourd'hui, c'est un boom. Et je pense que les citoyens maliens l'ont compris aisément et continueront à utiliser ces services-là. Mais ne nous y trompons pas, ces services vont évoluer, à l'instar de ce qui se fait en Occident. Donc il faut qu'on puisse s'adapter.
C'est ce genre de service qui amène les gens vers les banques ?
Oui, ça c'est vrai, parce que de manière indéniablement, même quand on parle d'opérateurs de téléphonie mobile qui viennent sur ce secteur, il faut savoir que ces opérateurs sont obligés de passer par une banque, ou sinon par plusieurs. C'est une obligation dans la zone au moins. Donc, indéniablement, cela crée une synergie, je pense, au bénéfice des populations, au bénéfice de la bancarisation.
Frédéric Maury.
Entre mobile money et mobile banking, qui sont les deux termes qu'on entend souvent, est-ce qu'il y a une différence entre les deux et laquelle ?
C'est pareil. Maintenant, nous, on parle de services financiers mobiles, mobile money, mobile banking. Nous, on a un produit qui s'appelle Orange Money, mais qui est un service de mobile banking ou un service financier sur le mobile. Je crois qu'il faut d'abord préciser à vos éditeurs que nous n'avons pas demandé cette interview. Cette personne parle merveilleusement bien de cette activité en disant, d'abord, l'essentiel, c'est qu'elle est utile à la population, puisqu'on est dans le pays qu'elle cite Mali, un pays qui est très faiblement bancarisé, eh bien, il y a désormais plusieurs millions d'utilisateurs d'Orange Money pour ce qui nous concerne. Vous avez 1000 kiosques Orange Money dans la seule ville de Bamako, ce qui est considérable. Vous en trouvez un tous les 300 mètres et c'est un boom considérable. Pensez qu'à Bamako, aujourd'hui, on a transféré l'année dernière l'équivalent de 20% du PIB par Orange Money. C'est-à-dire que si vous prenez la totale du PIB du Mali, vous prenez ce montant, 20% de ce montant a été transféré, soit pour payer une facture, soit pour envoyer de l'argent, soit pour épargner, par Orange Money. Donc oui, c'est un grand succès, parce que ça répond à un besoin, et si demain ça aide les clients Orange Money à se bancariser de façon traditionnelle, tant mieux, parce que ça voudra dire que l'économie se développe, que les classes moyennes se développent, et ce sera très bien pour tout le monde.
Orange Money, vous en avez parlé, donc c'est votre offre de mobile banking, enfin vous dites service financier sur mobile, c'est quoi, plus de 10 millions de clients, c'est ça maintenant ?
On a 13 millions de clients.
13 millions de clients.
Sur tout le continent.
Mais sur une demi-douzaine de pays significatifs, on est en démarrage.
C'est surtout du transfert, les transferts d'argent.
Paiement de facture aussi.
Paiement de facture aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aille un peu plus loin? Parce que ce qui fait la différence entre les télécoms et la banque, c'est le crédit notamment. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que Orange Money, ce soit aussi du crédit, de l'assurance, etc.?
Pour un petit point d'histoire, le mobile banking, je n'y étais pas, a été inventé au Kenya par un de nos concurrents avec le produit M-Pesa pour le microcrédit. Ensuite, ça n'a pas marché, il y a une dizaine d'années, ça s'est arrêté, ça a redémarré pour le grand public avec le formidable succès qu'on a connu. Donc oui, bien sûr, ça permet de faire du crédit. Nous, personnellement, nous n'avons pas comme projet majeur de devenir une banque et de faire du crédit, de développer ça. Par contre, on utilisera de plus en plus le mobile banking, par exemple, pour faire du picocrédit, pour faire du tout petit crédit pour des artisans, des gens qui veulent développer une activité, mais on ne va pas prêter...
C'est quoi, c'est quel montant ? C'est
quelques euros. Dizaines d'euros. Mais on ne va pas prêter notre activité, le mobile banking n'est pas fait pour financer du prêt immobilier.
Et les assurances éventuellement, distribuer des assurances ?
Oui, les assurances, on a déjà lancé des choses à Madagascar, c'est quelque chose qu'on peut faire. L'assurance de nos propres mobiles, de nos propres terminaux, et puis d'autres formes d'assurance, parce que les coûts sont très peu élevés.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir concurrent des banques ?
Alors, on nous pose souvent cette question. Pour l'instant, on travaille en partenariat avec les banques. Puis, comme il était rappelé tout à l'heure dans votre interview sonore, on utilise des banques pour remplir aux obligations voulues par l'UMOA, notamment dans cette zone d'Afrique de l'Ouest.
Vous n'avez pas le choix, vous travaillez avec elle, parce
alors,
que vous n'avez pas le choix.
Si, nous avons tout à fait le choix, et nous allons d'ailleurs devenir, dans plusieurs pays où on est devenu significatif, établissement émetteur de monnaie électronique, c'est-à-dire que nous allons nous-mêmes avoir un statut, non pas bancaire, mais statut d'EME, comme on dit, pour pouvoir...
Qu'est-ce que ça veut dire, émetteur?
Émetteur de monnaie électronique. C'est-à-dire qu'on va nous-mêmes prendre des engagements auprès de la Banque Centrale, qui est à Dakar, de façon à pouvoir garantir la sécurité des transactions et surtout garantir l'identité des personnes. Parce que tout ça, ça ne marche que sur la confiance. Il faut que nous soyons des vecteurs de confiance. En Afrique, à tort ou à raison, les personnes, les clients, la population n'a pas pris l'habitude de se bancariser massivement, je le regrette, et n'a pas une confiance absolue dans la banque. Elle a davantage confiance dans son téléphone mobile que dans sa banque. Donc, il y a un créneau qui s'est ouvert, on rend service à la population, on développe l'économie, et moi je pense que c'est très bien. Et on essaye de le faire en intelligence avec les banques. On a signé des accords avec la BNP, avec la Générale, avec la BOA, avec EcoBank. On a beaucoup de partenariats pour faire ça.
Mais est-ce que ça va vous obliger à avoir une trésorerie plus importante, des réserves pour garantir une garantie?
Non, parce que aujourd'hui, on ne fait pas, comme je vous l'ai dit, indiqué, on ne fait pas massivement de prêts. Donc aujourd'hui, on a au contraire des dépôts qui sont apportés par la population qui vient déposer quelques euros, quelques francs CFA. Et donc, on a plutôt de l'argent qui est rémunéré, qui est déposé dans des banques, et on n'a pas massivement de besoins supplémentaires parce qu'on n'a pas une activité de prêt significative.
Au Zimbabwe, il y a un opérateur télécom qui a racheté une banque. C'est pas le projet d'Orange. Hein.
C'est pas ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. On s'interdit rien parce qu'on va voir tout ça, comment ça évolue. Aujourd'hui, on a 13 millions de clients, deux fois plus que l'année d'avant, et on en aura encore le double cette année. Bon, on va voir comment ça évolue. On n'est pas en train de devenir un concurrent des grandes banques de réseau, mais on fait un pas vers les banques, comme les banques on fait un pas vers la téléphonie en développant des MVNO, ont aussi leurs affaires dans le domaine du téléphone.
Alors, on parle beaucoup de l'Afrique francophone, mais vous avez vendu récemment la participation d'Orange en Ouganda. Oui. Vous êtes en train de négocier votre retrait du Kenya. C'est pas un peu gênant pour un opérateur de votre importance, qui se veut un opérateur panafricain, d'être concentré en quelque sorte sur l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest et centrale, et d'être très absent de cette Afrique de l'Est, qui est l'Afrique peut-être qui se développe le plus rapidement?
Alors, nous sommes présents au nord, dans la plus grosse géographie du groupe, qu'est l'Égypte, avec 33 millions de clients. Donc, à elle seule, elle est plus importante que l'ensemble des pays de l'UMOA. Nous sommes présents à Madagascar, nous sommes présents à Maurice, nous sommes présents au Botswana, nous sommes présents un peu partout. Nous travaillons en langue arabe, en langue anglaise, en langue française. Il est vrai qu'on a une vision qui est de dire que partout où nous sommes, nous visons à être numéro 1 ou numéro 2, qui est une lecture stratégique du marché que nous faisons. Là où nous pensons que pour différentes raisons, notamment réglementaires, de nombreux opérateurs, de nombreuses licences excessives qui ont été attribuées, nous ne pourrons pas y parvenir et que quelqu'un d'autre pourrait mieux le faire que nous, eh bien nous n'avons pas hésité à faire des revues de portefeuille, comme on les fait dans toutes nos activités, qui nous ont conduit à nous désengager de l'Ouganda et à rechercher des partenaires sur le Kenya, comme vous l'avez indiqué. Mais s'il y avait une opération profitable, intéressante, qui se propose demain en Tanzanie ou dans un pays proche, on la regarderait tout autant qu'en Afrique de l'Ouest.
Marc Renard, vous êtes sur RFI, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Nous poursuivons cette émission avec une question de Frédéric Maury.
Vous êtes pas non plus présent en tant qu'opérateur télécom en Afrique du Sud, au Nigeria et en Algérie, qui sont trois grosses économies du continent. Est-ce que vous avez des projets sur ces pays-là?
Alors, d'une façon générale, on n'annonce pas en avance nos projets de M&A. Ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est qu'on regardait les 54 pays.
M&A, c'est fusion-acquisition.
De fusion-acquisition, pardon,
voilà,
merci
pas
de me le rappeler.
Pas trop de jargon.
Beaucoup de jargon dans certaines industries. Une des caractéristiques, c'est effectivement qu'on utilise beaucoup de jargon et beaucoup trop. Donc les processus de fusion-acquisition, on les clame pas sur la place publique avant de les réaliser. Les trois pays que vous venez d'indiquer sont des pays totalement différents. L'immense économie du Nigeria, qui est devenue depuis un an, dit-on, la première économie du continent. Donc il y a déjà beaucoup d'opérateurs. Ce serait très cher, donc on n'a pas de projet immédiat. L'Afrique du Sud commence à être un marché mature. Il n'y a pas la place pour un nouvel opérateur. J'ai pas connaissance qu'il y en ait à vendre. Et puis l'Algérie, bah, il y aura peut-être un jour une licence, peut-être une privatisation, on verra bien. Pour l'instant, pour qu'on puisse opérer dans un pays, il faut soit qu'on ait une nouvelle licence, soit qu'il y ait un opérateur à vendre. Donc on ne peut pas décider un matin de dire, tiens, je vais aller opérer dans un pays. Ça ne marche pas comme ça.
Alors, on parlait du Nigeria à l'instant. Le ministre de l'Agriculture du Nigeria, Kinuumi Adesina, était il y a quelques jours à Paris, en particulier pour promouvoir sa candidature à la présidence de la Banque africaine de développement. Ma consœur Abla Junaïdi l'a interrogé sur le rôle que jouait la téléphonie mobile dans le secteur rural nigérian. Écoutez la réponse d'Akinuumi Adesina.
Au Nigeria, aujourd'hui, nous savons tellement de téléphones portables par rapport à la télévision au Nigeria. Quand je suis devenu le ministre, j'ai dit, bon, il y avait tellement de corruption dans les secteurs agricoles, surtout concernant les secteurs des engrais. J'ai arrêté la corruption de 40 ans pendant 90 jours. J'ai utilisé le système mobile pour envoyer l'argent directement aux paysans au Nigeria. On a totalement coupé de tous les systèmes intermédiaires. Et pendant 3 ans et demi, on a réussi à livrer les choses comme ça à 14,5 millions de paysans, y compris 2,9 millions de femmes. Donc c'est ça qui va tenir la transparence. Il faut avoir la responsabilisation.
Alors Marc Renard, c'est un instrument de transparence, le téléphone portable?
Ah oui, très clairement, parce que ça permet de tracer beaucoup de choses, et puis parce que les réglementations partout nécessitent qu'on enregistre et qu'on identifie nos abonnés. Ça sera encore plus vrai demain avec le paiement sur mobile, puisque les réglementations nous l'imposeront encore deux fois, on sera doublement régulé. Mais bien sûr, c'est un instrument de transparence, et c'est surtout un instrument de fluidification, parce que dans le rural, pour l'agriculture, par exemple, de pouvoir envoyer des prix, des quantités qui sont produites à plusieurs centaines de kilomètres, c'est quelque chose de très important. On sous-estime totalement l'impact qu'il peut y avoir sur le développement économique de la simple possibilité d'envoyer un message, d'envoyer un mail. Et ce qui a changé au cours des dernières années, si vous me permettez encore 5 secondes là-dessus, c'est que non seulement le rural aujourd'hui réclame le téléphone mobile, comme on le pense tous ici, mais c'est presque fini. Maintenant, le rural, ce qu'il veut, c'est l'Internet. Donc notre challenge et notre responsabilité sociale, les engagements que nous devons prendre auprès des gouvernements, ce que les gouvernements devraient davantage nous demander d'ailleurs, c'est d'investir pour amener l'Internet dans les villages, plutôt que de nous taxer avec des taxes spécifiques, de faire de la fiscalité sectorielle. Donc, plus on investit dans le rural, plus on contribue au développement économique des pays, et pour nous, plus on aura du business qui va se développer, certes, avec une profitabilité un peu moins immédiate, mais sur le long terme, il n'y a pas d'exemple d'investissement qui ne fonctionne pas en Afrique.
Frédéric Maury.
Vous évoquez Internet, justement. Alors, en Afrique, on a connu la révolution du téléphone mobile, puisque maintenant, les taux de pénétration sont très élevés. Il y a certains pays où ça dépasse même les 100%, d'ailleurs. Par contre, la pénétration d'Internet, globalement, et si on enlève l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, reste assez bas, assez limitée. Il est clair que les opérateurs mobiles, vous le disiez à l'instant, ont un rôle important à jouer dans la diffusion de l'Internet mobile. Est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce que vous voyez les choses changer rapidement? Est-ce que vous investissez beaucoup là-dedans?
Alors, ça change extrêmement rapidement. En préparant cette émission, je faisais quelques recherches sur Internet avec des données qui dataient de 2011 ou 2012 qui sont totalement obsolètes. Donc, la crise dite des printemps arabes a beaucoup fait accélérer cela, parce que les populations ont souhaité communiquer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et donc il y avait une nécessité d'Internet, donc on a dû s'adapter, on a dû développer ça rapidement.
Il y a eu le même phénomène au Burkina Faso ou pas?
Il y a eu... au Burkina Faso, dans les villes, les populations étaient un peu moins importantes, hein, en volume, et puis la crise était beaucoup plus courte, donc on n'a pas pu mesurer ça, puis nous n'opérons pas en ce moment au Burkina Faso, donc je peux moins facilement vous répondre. Mais la crise ayant été beaucoup plus courte, on n'a sans doute pas eu le temps de mesurer cela.
Mais au Mali, par exemple, où la crise a été plus...
Au Mali, oui, bien sûr, on a vu l'explosion, mais au Mali, on avait déjà beaucoup anticipé, et la couverture en 3G était déjà très très forte. Le Mali est un pays qui, du point de vue des télécoms, est un pays très développé. Lorsque vous arrivez à Bamako, vous chargez vos mails avant de descendre de l'avion, de la même façon que lorsque vous arrivez à Roissy-Charles de Gaulle. Donc, le pays est déjà très développé. Pour en revenir à votre question, il y avait des éléments qui freinaient le développement de l'Internet, c'était un équipement en réseau qui était encore insuffisant, c'est en train de se corriger. Il y a eu un élément très important que la population ne perçoit pas forcément, c'est le rôle des câbles sous-marins, puisqu'une chose est de pouvoir communiquer à l'intérieur d'un pays, autre chose est de pouvoir envoyer des mails, des images, des vidéos ailleurs que sur le continent. Ça, c'était le gros apport des câbles sous-marins. Et là, mon groupe, le groupe Orange, a beaucoup investi, parce que c'est une tradition de l'ancien France Télécom d'investir dans les câbles sous-marins.
Puis, et donc vous en êtes où? Le continent est ceinturé de câbles?
Le continent, pour reprendre votre expression, est ceinturé de câbles. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de problème de connectivité internationale pour les pays. En tout cas, pour les pays qui ont une façade maritime. Pour les pays qui sont enclavés, vu les distances, vu la taille des pays, lorsque vous êtes en Centrafrique, lorsque vous êtes au Niger, il y a encore des efforts à faire pour connecter ces pays à la bordure maritime. Pour lesquels là,
ça,
il n'y a
la
plus
3G
de
ou la 4G qui
3G permet, ou 4G et la fibre optique.
Et la
parce
fibre
que
optique,
pour hein. connecter les sites de 3G, il faut des fibres optiques ou des faisceaux hertziens. Enfin, il faut toute une technique.
Et est-ce que ça évolue rapidement, ça?
Oui, ça évolue très très vite. Alors, ce qui restait, c'est il y a deux facteurs qui freinent encore l'internet. Il y a quand même le niveau d'illettrisme qui reste important, qui quand même si on développe des trésors d'innovation pour mettre à disposition nos équipements à des gens qui ne sont pas totalement le même niveau d'éducation qu'on peut avoir dans les villes, c'est quand même un frein. Il y a des freins culturels. Par exemple, les femmes ont 10 points d'utilisation de moins de l'Internet que les hommes, en moyenne. Donc c'est un travail qu'on a à faire pour des raisons religieuses, des raisons culturelles. Puis un dernier élément qui était le coût des terminaux. Jusqu'à il y a 2 ans, le coût des terminaux pour acheter un terminal 3G, c'était plutôt de l'ordre de 200 euros. Donc ça a baissé fortement. Jusqu'à l'année dernière, on a sorti un terminal à 52 euros, nous, un terminal produit en Chine, hein, mais bien sûr, mais un terminal 3G de bonne qualité. Et là, on a annoncé à notre congrès professionnel mondial de Barcelone en fin février, qu'on lançait à partir de très prochainement, dans quelques jours, un terminal qu'on appelait le Cliff, qui est à 40 dollars, avec il y a le terminal 3G, et également du crédit de consommation qui est livré avec. Et ça, ça change tout. Donc l'année dernière, ces terminaux dits low cost, 3G, on en a vendu 900 000. On avait vendu 400 000 l'année dernière et 200 000 l'année d'avant. C'est pas notre métier principal de vendre des terminaux. Nous, on vend de la connectivité.
Quand vous parlez de terminal, c'est quelque chose qu'on prend dans sa main, c'est un téléphone.
C'est un téléphone, oui.
C'est un smartphone,
oui. Puisque l'essentiel des smartphones étaient des terminaux, vous savez, des terminaux d'entrée de gamme qui faisaient de la voix et du SMS, des terminaux très peu chers, de l'ordre de 10 euros, 12 euros. Et là, pour avoir de l'Internet, qui était très bien pour communiquer, pour parler, pour envoyer des SMS, par contre, pour de l'Internet, il faut ce qu'on appelle des smartphones. Et ce sont ces terminaux-là, ces smartphones qui désormais sont à des prix abordables.
Et vous confirmez l'accélération des ventes de smartphones de manière fulgurante.
Sur les continents. Vos projections, c'est quoi pour les années à venir?
Je suis pas le bon marqueur pour ça, parce que notre métier n'est pas de vendre des terminaux. Mais il est probable que cette année, nous, Orange, on vendra 1,5 million de terminaux d'entrée de gamme, de terminaux 3G d'entrée de gamme. Mais ce sera une goutte d'eau par rapport à tout ce qui se vendra par d'autres concurrents, également sur ce qu'on appelle le marché gris, c'est-à-dire en dehors des opérateurs, dans des boutiques que vous trouvez ici, neuf ou d'occasion.
Vous disiez à l'instant que vous les faisiez fabriquer en Chine, il n'y a pas de possibilité de faire fabriquer ce matériel en Afrique?
Alors, il y a des tentatives, il y a des exemples bien connus, dont vous avez parlé sur vos antennes, de fabricants africains qui ont fabriqué des terminaux ou des tablettes, des smartphones, ou des tablettes, qui sont très utiles pour aider à l'éducation des populations, à favoriser ce qu'on appelle le e-learning désormais. Néanmoins, en termes de masse, en termes de production de masse, aujourd'hui, tous les terminaux, quelles que soient les constructions au monde, sont fabriqués en Asie.
Mais Orange, qui soutient les économies africaines et qui est souvent un pilier dans les économies africaines, pourrait pas essayer de favoriser et de pousser ça?
Si, on essaye, on aimerait bien qu'il y ait des fabricants qui émergent, mais ce sont des investissements majeurs en R&D,
en recherche et développement.
Donc la prochaine fois, j'aurai sans doute un gage. En recherche et développement, ce sont des investissements majeurs. Ce n'est pas notre métier de produire des terminaux. Nous, on les achète là où ils se fabriquent. Mais y compris les grands fabricants européens, toutes les marques que vous pouvez utiliser et voir en France, en Belgique, partout, sont produits massivement en Afrique. D'ailleurs, l'iPhone, en Asie, l'iPhone est également produit en Asie, pour une large partie.
Tout à fait. Juste pour revenir à l'Internet, quand vous voyez les ambitions de Google qui parle de mettre des ballons dans le ciel pour améliorer la connectivité à Internet, notamment en Afrique, vous voyez ça comme probable et comme un concurrent assez rapide?
Écoutez, c'était il y a 3 ans quelque chose qui relevait encore de la recherche et développement, et non pas de la R&D. Aujourd'hui, on est en phase de pré-test. On va nous-mêmes probablement passer un accord pour le tester dans un pays, probablement en RDC, sur des zones rurales. Donc on pense qu'il y a une possibilité, en tout cas il n'est plus totalement impossible d'un point de vue technique, il y a encore beaucoup d'obstacles, hein, parce que les ballons par exemple ne sont pas motorisés. Donc un ballon non motorisé, il monte et il descend, puis il bouge à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest en fonction des vents. Donc il y a des systèmes de calcul qui permettent de les faire bouger de façon très pilotée. Donc il y a des tests qui seront pour, ça suppose des questions réglementaires, il faut avoir des fréquences disponibles également. Donc on pense que on est dans une phase où on peut tester ça, donc entre 2016 et 2018, il y aura sans doute des tests ici ou là, que ça a possiblement un avenir, que ce soit les ballons, que ce soit les drones, que ce soit des mini-satellites, il y a possiblement un avenir, mais ce n'est pas une activité, c'est pas avec ça qu'on va amener massivement de l'internet dans les 3 ans qui viennent aux populations africaines.
Vous y réfléchissez, vous, à Orange?
Oui, alors on va pas nous être producteurs de ballons, mais on y réfléchit à passer des accords avec les grands consortiums qui vont développer des ballons. Si ça se développe, vous savez, il est probable que ça se développe comme les câbles sous-marins dans le cadre de consortiums.
Donc vous ferez des alliances.
Oui, tout à fait.
Marc Renard, cette émission est maintenant terminée. Vous étiez le grand invité RFI Jeune Afrique. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir consacré ce temps. Mathieu Salabert était à la réalisation audio, Romain Ferré à la vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre écho d'ici, écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.